Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre. Votre balade quotidienne sur les sentiers pas toujours battus de l'histoire continue. Avec une séquence que je confesse aimer un peu trop.
Oui, et quand Stéphane confesse quelque chose, c'est pas comme nous une expression. Il s'est vraiment confessé auprès de l'abbé Bitard dans le secret de la sacristie d'une église normande. Et pour cause, c'est le péché de luxure qui pend au nez, et pas que de ce cher Stéphane, qui voue un culte un peu trop prononcé aux à-côtés érotiques de l'histoire, ce qui parfois lui en donne une vision biaisée. Ainsi, n'a-t-il pas déclaré dernièrement, à la stupéfaction de tous nos auditeurs...
Vous savez, l'histoire a commencé comment ? Par un coup de rein.
Mon fils, vous êtes avec ces propos hérétiques en contradiction totale avec la Genèse telle que la Bible la raconte, lui a soufflé l'abbé Bitard. La punition est tombée. Pas de sexe dans la chronique de Clémentine Portet-Kaltenbach aujourd'hui.
Alors Clémentine, c'est vrai, pas d'alcôve, pas de lien de débauche,
non, rien de tout ça.
Pas un cimetière, pas des eaux,
Mais si. De l'alcôve, bien sûr, de l'alcôve, avec Allan Kardec, le père du spiritisme, l'homme qui faisait parler les morts. Et où fait-on parler les morts, sinon dans l'alcôve, hein? Une alcôve capitonnée, enfin, il faut le plus grand silence et une grande concentration. Alors, qui était-il cet homme? Il est né en 1804 et son vrai nom est Hippolyte Léon Denisard Rivaille, alias Allan Kardec. Il s'est désincarné en 1869. Et oui, vous et moi, messieurs, nous mangerons les pissenlits par la racine, mais lui... Selon ses disciples, il s'est désincarné.
Ah, c'est chic, ça.
En tout cas, il y croyait dur comme fer et il en a fait son épitaphe. Naître, vivre, renaître et progresser sans cesse, telle est la loi. Alors attention, Allan Kardec était tout sauf un farfelu. À l'origine, d'ailleurs, il est lyonnais comme vous. Hein.
Ça n'empêche pas d'être farfelu, hein. On a un très bon exemple à gauche.
C'est l'esprit d'escalier. À l'origine, c'est un instituteur catholique lyonnais. Il a beaucoup écrit. Et réfléchit à la manière d'enseigner. Il a publié de nombreux manuels et il devient directeur d'un institut pédagogique à Paris. Et un jour, un cercle spirite fait appel à lui pour mettre un petit peu d'or dans le fouillis des communications reçues des esprits lors des séances de table tournante. C'est une pratique qui est...
Clémentine,
oui,
notre invité, Nicolas Delmas,
elle est pas
fait
d'accord.
Non du doigt. Alors il va y avoir, attention, clash, polémique, buzz.
Oui, alors là, je m'incline dès à présent,
que
car ma science d'Alan Kardec n'est pas extrêmement pointue, je dois le confesser.
Dites-nous, qu'est-ce qui vous a chagriné dans ce récit?
C'est pas une société spirite, puisque c'est lui qui invente le spiritisme, cette religion.
Ah, mais le fait de
scientifique, et il prend contact avec ce qu'on appelle à l'époque, on va en parler tout à l'heure, je pense, des somnambules magnétiques, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont, c'est surtout des femmes, mais pour d'autres raisons genrées dont on pourrait parler plus longuement, qui sont on dirait état d'hypnose. Et ça vient des tables tournantes qui étaient nées aux États-Unis liées au Sir Fox en 1848. Les tables tournantes passent en 1853 en France et puis en Europe. Et là, Allan Kardec, qui est un
instituteur... quelque chose qui existe déjà.
Non, il va s'interroger, il va dire pourquoi les tables, elles tournent, elles bougent. En fait, elles ne tournent pas, elles bougent. Et il va pourquoi elles parlent. Et du coup, il va entrer en lien avec des somnambules magnétiques. Il en a choisi quelques-unes et il va leur poser des questions. Et elles vont leur dire qu'elles sont en lien avec des esprits extraterrestres, qui prennent leur canal, elles deviennent des médiums, et elles vont se mettre, en effet, par ces relations avec tout et n'importe quoi, hein, les morts, mais pas que les morts, les saints, il y en a qui parlent avec Dieu, avec la Vierge, et puis avec les petits-enfants morts, ça a beaucoup de succès.
Ah ben, c'est notamment ce qui a conduit Victor Hugo à au spiritisme,
mais tout là, retrouver sa fille morte.
Hugo... Le spiritisme n'existait pas encore, c'était uniquement les tables tournantes. Mais en effet, il a cherché à, comme les Sir Fox, puisque les Sir Fox, elles rentrent en lien avec un pseudo-assassin qui serait dans la cave, etc. Donc, ensuite, à partir de là, il va écrire le livre qui est la Bible, le livre des esprits, qui paraît en 1857, et la religion spirite naît.
Voilà.
Et elle a un succès énorme.
Ce que j'ai trouvé surtout sidérant, c'est que sa revue spirite qu'il a fondée en 1858 existe toujours.
Ah bon ?
Et fonctionne très bien. Hein. Alors l'idée, sous contrôle de la grande spécialiste de la spécialité, c'est qu'en fait, notre dépouille mortelle est comme un manteau, elle est périssable. Notre âme est immortelle, mais notre périsprit...
Ça s'appelle l'hindouisme.
Une sorte d'enveloppe fluidique, double éthérée de notre corps terrestre, impalpable, invisible... peut se matérialiser, vous le disiez à l'instant, madame, sous l'influence de sujets dotés d'une sensibilité supranormale, les médiums. Et c'est par l'intermédiaire du périsprit que l'âme désincarnée communique avec les vivants. Alors, ces séances de spiritisme ont un très bon côté, c'est qu'elles ont permis à Denis Arrivaille de découvrir que dans une vie antérieure, il était druide dans une tribu gauloise,
non,
sous le nom d'Alan Kardec.
Oh
et
non.
C'est, et oui, et c'est justement parce qu'il est la réincarnation d'un genre de panoramix que sa tombe est agrémentée d'un dolmen. Alors, si vous souhaitez...
Comment on peut savoir ce qu'on était dans
Attends, je vous l'explique tout de suite. Vous pouvez aller vous recueillir, sur la tombe d'Alan Kardec au Père-Lachaise. Dites-vous bien que vous ne serez pas seul parce qu'elle est aujourd'hui encore l'une des plus visitées, des plus fleuries du cimetière. Mais oui, si vous n'avez pas froid aux yeux, vous pouvez toucher le buste d'Alan Kardec. Il est supposé pouvoir exaucer tous les vœux. Idem pour la tombe de Mademoiselle Lenormand, hein, célèbre diseuse de bonne aventure, astrologue. Alors, là, sur la tombe de Mademoiselle Lenormand, si vous avez une peine de cœur, vous devez déposer une nuit de pleine lune la carte de l'as de cœur dans un recoin de sa sépulture. Des problèmes d'argent, un as de carreau. Si vous voulez devenir le plus grand médium de tous les temps, il faut cacher tout un jeu de cartes sur la tombe de Mademoiselle Lenormand et venir le rechercher le lendemain matin. Donc vous pensez bien évidemment que je l'ai fait. Et depuis ma visite au Père Lachaise, je suis moi-même devenue spirite. Et je puis vous faire là tout de suite mes prédictions pour 2021. Oui. Attendez. Je me concentre. Alors voilà ma prédiction. Cette année, les aveugles ne verront que bien peu. Les sourds entendront assez mal. Les muets ne parleront guère. Les riches se porteront un peu mieux que les pauvres et les bien portants mieux que les malades. Vieillesse sera incurable cette année à cause des années passées. Eh bien voilà cette prédiction, messieurs, en fait, n'est pas
c'est
de moi. Elle date du 15e siècle et m'a été soufflée par le périsprit de son auteur. Stéphane, vous avez raison, un certain François Rabelais.
Parfait, merci Clémentine.
Restez avec nous, monsieur.